Nous sommes le troisième jour. Quelques femmes viennent au tombeau avec des aromates pour embaumer le corps de Jésus. Et elles remarquent que la pierre devant le tombeau a été roulée. Elles entrent, mais elles ne trouvent pas le corps de Jésus. Alors elles s'interrogent. Elles ne savent pas quoi penser de tout cela. Jusqu'au moment où deux hommes, tous de blanc vêtus, leur apparaissent. En disant, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Rappelez-vous de ses paroles lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Elles se souvinrent des paroles de Jésus. De retour auprès des onze apôtres, elles leur racontent toutes ces choses. Mais les apôtres ne les ont pas crus. Au même moment, deux hommes se rendaient dans un village appelé Emmaüs. Et en chemin, ils se rappelaient de tous ces événements arrivés à Jésus. Ils marchaient, tout tristes. Jusqu'au moment où Jésus en personne vient à leur rencontre. Et il leur demande... Ils ne l'ont pas reconnu. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur demande, mais pourquoi marchez-vous ainsi, de manière toute triste? Alors, l'un d'eux, Cléopas, répond, comment? Serais-tu le seul séjournant à Jérusalem qui ne serait pas au courant de ce qui s'est passé à Jésus de Nazareth? Ce prophète puissant en actes et en paroles devant les hommes et devant Dieu? Et comment nos principaux sacrificateurs et les magistrats l'ont condamné et l'ont crucifié? Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais voilà trois jours que tout cela est passé et rien de tout cela n'est arrivé. Alors Jésus, s'adressant à eux, leur dit « Homme, ô homme, sans intelligence !» et dont le cœur est lent à croire ce que les prophètes ont annoncé. Ne fallait-il pas que le Christ souffrît toutes ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et il les enseigna, en commençant par Moïse et les prophètes. Il les enseigna toutes les choses dans les Écritures le concernant. Au moment d'arriver à Emmaüs, Jésus parut vouloir aller plus loin. Mais les deux disciples pressèrent de rester. « Reste avec nous parce que le soir tombe. » Alors Jésus entra avec eux dans l'auberge. Il s'attabla, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Et à ce moment-là, leurs yeux s'ouvrirent. Ils reconnurent Jésus, mais Jésus aussitôt disparut. Les deux disciples se regardent et disent « nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous lorsqu'il nous expliquait les Écritures en chemin ?» Nos cœurs ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait des Écritures? Et à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, annoncer aux onze apôtres, Jésus est vraiment ressuscité. Jésus est vraiment ressuscité. On connaît bien ce passage des disciples sur le chemin d'Emmaüs. Le récit, on le trouve dans Luc au chapitre 24. Luc au chapitre 24. Et j'aimerais de ce texte, de ce passage, faire quatre observations avec vous, quatre observations et tirer quelques applications pour nos vies, si vous êtes d'accord. Avez-vous réellement le choix, de toute façon? Quatre observations. La première observation, c'est de constater le désarroi des deux disciples après la crucifixion de Jésus. Le désarroi des deux disciples. Alors, ils marchent en direction d'Emmaüs, ils quittent Jérusalem. Ils vont vers Emmaüs, alors certainement pas pour acheter quelques habits ou quelques meubles pas chers. Ils retournent dans leur ville d'origine, certainement pour travailler dans les champs. Et en chemin, ils ressassent les événements arrivés à Jésus. Jésus, ils l'ont côtoyé, ils l'ont suivi. Alors certes, il ne faisait pas partie des 12 apôtres, mais il faisait partie du cercle restreint des disciples qui avaient l'honneur de suivre Jésus dans ses déplacements. Alors, ils l'ont vu accomplir des guérisons, ils l'ont vu guérir des lépreux, ils l'ont vu opérer des miracles, certainement multiplier les pains et les poissons. Ils ont assisté à tout cela. Ils ont même suivi les enseignements de Jésus. Et ils avaient porté tout leur espoir en Jésus. Mais leur espoir s'effondre. Jésus est crucifié. Vous savez, ça me fait penser au lendemain des grandes défaites, quand on place tous nos espoirs dans une équipe et qui échoue. Ça me fait penser aussi au lendemain de fête. Vous savez, quand on passe des bons moments avec nos amis ou quand on passe des moments dans les rassemblements de famille, et la fin approche. Alors on passe des moments forts, on partage, on refait le monde peut-être, et la fin approche, les invités commencent à partir, jusqu'au moment où le dernier invité ferme la porte. Et si c'est nous qui invitions à la maison, on se retrouve tout seul, avec peut-être la vaisselle à faire, le ménage, le rangement, tout seul, la fête est finie. Là, les deux disciples retournent à Emmaüs, retournent au champ. Ils reprennent leur quotidien, le train-train quotidien. La fête est finie. Après avoir vécu une vie extraordinaire aux côtés de Jésus, eh bien, ils retrouvent leur vie ordinaire, le train-train quotidien. Celui en qui ils avaient placé tout leur espoir est mort. Voilà dans quel état les deux disciples se trouvent lorsque Jésus vient à leur rencontre. Alors Jésus, ils ne le reconnaissent pas. Leurs yeux est empêché de le reconnaître, dit la Bible. Ils le prennent pour un simple pèlerin, anonyme, un simple pèlerin venu comme eux, peut-être, assister à la Pâque à Jérusalem. Et ils retournent dans leur ville. Ils ne le reconnaissent pas. Est-ce la tristesse qui les empêche de reconnaître Jésus? Ou est-ce leur incrédulité? Dans tous les cas, leurs yeux de chair sont impuissants, incapables de reconnaître Jésus. Il faut dire, ils ont affaire à un Jésus qui est entré dans une nouvelle condition par la résurrection, et certainement une nouvelle apparence. Leurs yeux de chair sont incapables de reconnaître Jésus. Et Jésus les interroge. Pourquoi êtes-vous si tristes? Alors, Cléopas, l'un des disciples, commence à enseigner Jésus. Et là, c'est paradoxal, puisque ce sont des disciples qui sont aveuglés, qui enseignent à Jésus, le principal intéressé, ce qu'il s'est passé. Le comique de la situation. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Voilà la déception. La déception vient du fait que tout ce qui est arrivé n'a rien à voir avec ce qu'ils avaient imaginé. En effet, ils attendaient un sauveur politique, un sauveur qui délivrerait Israël de la domination des Romains. Ils attendaient un sauveur terrestre, à la place, Dieu leur a envoyé un sauveur céleste. Ils attendaient un sauveur qui allait répondre à tous les problèmes de la société. À la place, Jésus est venu répondre aux problèmes du cœur de l'homme. Mais ça, ils ne l'ont pas compris sur le moment. Et c'est ce qui fait qu'ils sont plongés dans une extrême tristesse. Mais Jésus vient à leur rencontre. Jésus fait un bout de chemin avec eux. Et c'est formidable. Malgré l'état de notre cœur, malgré notre tristesse, Jésus marche à nos côtés, discrètement, parfois trop discrètement à notre goût. Mais soyons-en sûrs, Jésus est là à nos côtés. Voilà la première observation, le désarroi, la tristesse des deux disciples après la crucifixion. Et nous pouvons parfois, c'est vrai, comme ces deux disciples, être plongés dans une tristesse parce qu'on ne comprend pas les plans de Dieu pour nous. On ne comprend pas où est-ce que Dieu veut nous amener. Mais restons confiants, Dieu est à l'œuvre. La deuxième observation, c'est de constater l'incrédulité des deux disciples, le manque de foi des deux disciples devant les événements, devant la crucifixion. Et ils font eux-mêmes cet aveu d'incrédulité au verset 22, puisqu'ils disent « Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. » Donc ils avaient été informés de la résurrection de Jésus, mais ils n'ont pas cru. Et pour faire une parenthèse, les femmes se rendent au tombeau pour rendre un dernier honneur à Jésus en embaumant son corps. Mais elles n'ont pas trouvé son corps. Et à la place, Dieu leur fait cet honneur d'être les premières à annoncer la résurrection de Jésus. Donc Dieu leur fait cet honneur d'être les premières missionnaires de la bonne nouvelle. Je ferme la parenthèse. Jésus, s'adressant à ses deux disciples, dit « homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire ce que les prophètes ont annoncé ». Jésus a fait un lien entre le manque d'intelligence et le manque de foi. Notre ignorance vient souvent, il est vrai, de notre manque de foi. Jésus avait annoncé d'avance la fin de l'histoire. Je ne sais pas si vous aimez quand on vous raconte la fin d'un film que vous allez voir. Moi, personnellement, j'aime pas trop. Il n'y a plus d'effet de surprise, on sait tout d'avance. Donc, quel intérêt d'aller regarder le film ? Là, Jésus leur avait annoncé la fin du film. Donc, il n'y avait plus de surprise. Et pourtant, ils n'ont pas cru. Mais avec patience, Jésus les enseigne à nouveau. Il reprend les Écritures. Il commence par Moïse. Il passe par les prophètes. Et il leur enseigne les choses le concernant. Ça nous rappelle que l'étude de la Bible, que ce soit de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament, l'étude de la Bible doit toujours nous mener à rechercher Jésus. Nous devons toujours, dans les Écritures, chercher Jésus. Parce que si nous cherchons autre chose, nous risquons de devenir comme ces pharisiens. Vous savez, ces pharisiens qui scrutaient les Écritures, non pas pour chercher Jésus, le Messie, mais pour confirmer leur tradition humaine. Alors ils fouillaient les Écritures pour trouver des occasions d'accuser Jésus, d'accuser ses disciples ou d'accuser leurs contemporains. Ça nous rappelle que la parole seule, l'Écriture seule, sans l'Esprit, amène la condamnation. Ce sont comme des pierres que l'on apporte aux gens, comme ces pierres qui ont failli lapider la femme adultère, la parole sans l'Esprit. Mais la parole avec l'Esprit qui est derrière cette parole, eh bien, elle est capable d'apporter la guérison, la délivrance, l'espoir, la parole avec le Saint-Esprit. Jésus leur rappelle donc cet enseignement qu'ils avaient déjà reçu, qu'ils avaient déjà entendu. Ne fallait-il pas que le Christ souffrît toutes ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Alors ils le savaient, ils en avaient été avertis. Leur tête était remplie, mais leur cœur n'était pas touché. Jésus ne vise pas la tête, Jésus vise le cœur. Jésus vise ton cœur. Nous ressortons parfois de nos cultes informés des choses de Dieu, mais est-ce qu'on est réellement transformé? Alors il y a ce mensonge de l'ennemi qui, qui veut nous faire croire qu'on ne peut servir Dieu que quand on en sait assez, quand on sait suffisamment de choses. C'est un mensonge. Le problème, comme le rappelait la dernière fois Robert dans une réunion de prière du mardi, le problème finalement, ce n'est pas ce que l'on ne sait pas ou ce que l'on ne comprend pas des Écritures. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est ce que l'on sait, ce que l'on a compris des Écritures et qu'on ne met pas en pratique. Il est là le problème. Donc, deuxième observation, l'incrédulité des disciples devant les événements qui leur avaient été annoncés. L'incrédulité. Sur ce point, ne faisons pas comme ces deux disciples qui étaient informés de la résurrection de Jésus, mais qui sont restés incrédules. Sur ce point, ne les imitons pas. Par contre, on peut en imiter d'autres points. C'est le troisième point. On peut imiter leur soif de vérité. Donc, troisième observation, Jésus se révèle à des cœurs assoiffés. Jésus se révèle à des cœurs assoiffés. Effectivement, les disciples étaient tristes, désorientés, incrédules, mais ils avaient leur cœur assoiffé. Au verset 28, on peut lire « Jésus parut vouloir aller plus loin, mais les disciples le pressèrent de rester. Reste, car le soir approche. » Jésus répond à l'invitation. Il entra avec eux. Il se mit à table. Et après avoir rendu grâce, il rompt le pain et leur donna. Il entra avec eux. Ça me rappelle, vous savez, ce passage dans Apocalypse 3, au verset 20, cette parole qui dit, Jésus qui dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et qui m'ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui. » Jésus, ce n'est pas quelqu'un qui vient avec ses gros sabots, avec son burin et sa masse et qui défonce la porte. Jésus, c'est un gentleman. Il se présente à la porte des cœurs avec respect et il attend. Il attend qu'on lui ouvre. Jésus ne s'imposera jamais dans ta vie. Il prendra simplement la place que tu voudras lui laisser. Et dans un autre message, je prenais l'image de la voiture comme notre vie. Parfois, on conduit notre voiture et on laisse Jésus dans le coffre. Et on l'utilise parfois comme un gris-gris ou un porte-bonheur. On peut aussi laisser Jésus sur la banquette arrière et on regarde dans le rétroviseur pour nous rassurer. On peut aussi le mettre à notre côté, en copilote, et on l'interroge quand on perd son chemin. Mais on peut surtout le laisser prendre le volant et le laisser conduire notre vie, nous abandonner complètement à lui. Mais Jésus ne s'impose pas. Il répond à une invitation. Alors Jésus a d'abord pris la place de l'invité et ensuite il prend la place du maître de maison. Il prend le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et en donna. Et c'est à ce moment-là que les yeux des disciples s'ouvrent. Ils reconnaissent Jésus. Et à ce moment-là, Jésus disparaît. Ils ont reconnu Jésus au moment de la fraction du pain. Est-ce que c'est ce geste symboliquement fort qui leur a ouvert les yeux? Est-ce que ça leur a rappelé le dernier repas? Vous savez, quand au dernier repas, Jésus prend le pain et on s'est remémoré ce moment tout à l'heure, à la distribution de la Sainte Cène. Est-ce que ses disciples avaient assisté à ce moment, au dernier repas? Peut-être pas. En tout cas, ils avaient peut-être assisté à la multiplication des pains et des poissons. Quand Jésus prend le pain, entre parenthèses encore, qu'un enfant a apporté, Jésus prend le pain et le rompit, rend grâce et puis il en distribue. C'est ce geste qui a ouvert les yeux de ses deux disciples. Alors ils l'ont reconnu. Ils l'ont reconnu comme étant le pain de vie. Jésus a dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. » Et puis Jésus disparaît aussitôt. Et c'est étonnant, hein ? Quand Jésus est visible, ils ne le reconnaissent pas. Mais quand il se fait invisible, là, ils le reconnaissent. C'est paradoxal. Mais Jésus est comme ça. Il révèle juste ce qu'il faut pour que la graine de foi qui est plantée puisse germer et porter du fruit. Jésus sème juste ce qui est de nécessaire pour que la foi pousse, pas plus. Et les deux disciples ont dit, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous expliquait les Écritures en chemin? Ça devient une évidence. Ça devient une évidence, c'était Jésus. Et c'est souvent a posteriori, quand on regarde derrière nous, que l'on voit que Dieu a agi. C'est souvent bien après, hein. Mais quand on est pris dans la tempête, on ne voit rien. C'est souvent après qu'on reconnaît la main de Dieu. Et c'est comme si on mettait bout à bout des pièces de puzzle et on finit par voir, à la fin, l'image globale. Donc, troisième observation, Jésus se révèle à des cœurs assoiffés. Et bien souvent, Jésus frappe à la porte des cœurs. Mais les cœurs n'ont pas soif. Alors Jésus continue son chemin. Ayons ces cœurs assoiffés de justice, de vérité. J'en viens à mon dernier point, la quatrième observation. La rencontre avec Jésus provoque un changement, un mouvement dans nos vies. La rencontre avec Jésus provoque un changement. Effectivement, les deux disciples se rendaient à Emmaüs pour travailler dans les champs. Mais une fois qu'ils rencontrent Jésus, ils changent complètement de projet. La Bible dit « à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem », verset 23. Un changement de programme. Et ça m'a rappelé, vous savez, la femme samaritaine qui venait au puits pour prendre de l'eau et puis... Elle rencontre le Messie, elle rencontre Jésus, elle a cette révélation qu'il est le Messie, l'envoyé de Dieu. Alors elle abandonne tout, elle abandonne sa cruche, elle retourne dans son village pour annoncer aux villageois, « Venez, le Messie est arrivé. » Elle a changé de programme. Ça m'a rappelé aussi les disciples, les premiers disciples, quand ils rencontrent Jésus, ils étaient en train de pêcher, Pierre, Jacques, Jean... Ils étaient en train de pêcher et puis ils rencontrent Jésus. Jésus leur dit « Suivez-moi ». Ils abandonnent leur filet. Un changement de programme radical. Et finalement, ça nous rappelle tous ceux qui ont croisé un jour la route de Jésus et qui ont changé de programme. Là, les deux disciples abandonnent leur projet et retournent à Jérusalem pour annoncer cette bonne nouvelle. Jésus est vraiment ressuscité, il est vivant. Si nous avons rencontré Jésus, frères et sœurs, notre vie doit se résumer à une seule chose, connaître Christ et le faire connaître, n'est-ce pas? En tout cas, c'est le programme que j'essaye d'appliquer dans ma vie, c'est un petit peu le slogan que j'essaye de mettre en avant dans ma vie, connaître Jésus et le faire connaître. Mais bien souvent, il faut reconnaître qu'on incorpore Jésus dans nos projets. Alors on construit nos plans de vie, nos plans de carrière, on construit des projets bien ficelés. Et puis on dit à Jésus, tu voudrais pas jeter un coup d'œil? Et on s'étonne que finalement on a peu d'impact dans notre vie chrétienne. Il y a des gens, je le dis avec beaucoup d'amour, mais avec une certaine gravité, il y a des gens qui se disent chrétiens, mais il faut vraiment fouiller beaucoup dans leur vie pour trouver Jésus. Et c'est malheureux. Avec Jésus, c'est une nouvelle vie qui commence, n'est-ce pas? Si Jésus est tout pour nous, tout est différent. Nos centres d'intérêt sont différents, nos ambitions changent. Et finalement, c'est comme si on avait une nouvelle programmation. Et pour prendre une image, bon, elle vaut ce qu'elle vaut, hein, une image en informatique, ce n'est plus une simple mise à jour qui est opérée en nous, mais c'est carrément... un changement de disque dur. Et là, vous avez un nouveau message qui s'affiche devant votre écran. Un nouveau programme a été détecté sur votre disque dur. les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà le message qui s'affiche désormais dans notre vie. Une nouvelle programmation. Nous sommes finalement tous comme ces disciples sur le chemin d'Emmaüs. On marchait, on suivait notre propre vie lorsque Jésus est venu nous trouver. Et nos yeux se sont ouverts. Et nos objectifs, nos plans de vie ont changé, n'est-ce pas? Nos églises ne devraient pas ressembler à des clubs. Vous savez, les clubs dans le monde, ce sont des endroits où les gens qui partagent à peu près une même passion ou des mêmes idées se retrouvent. Et on est bien, on est entre nous. On a peut-être la même philosophie ou les mêmes idées sur des tas de choses. Mais l'église n'est pas un club. L'église, c'est le rassemblement des disciples qui ont été transformés par Jésus et qui vont à leur tour être des vecteurs de transformation pour les autres. As-tu été informé des choses arrivées à Jésus? Es-tu juste informé? Ou est-ce que tu as été transformé par Jésus? C'est la question. C'est vrai qu'on est dans notre société occidentale, on est dans un monde où on est informé de plein de choses et on a accès à la connaissance. J'étais cette semaine au Champ Libre, vous savez, c'est ce grand bâtiment qui se trouve entre le Colombier et la gare. Et il y a des livres, mais à foison. Il y a même des livres qui traitent de la religion. Donc on a accès à de la littérature, on a accès sur Internet à plein de messages, on a accès finalement à un amas de connaissances. Mais finalement, est-ce que ça change quelque chose dans nos vies? On en sait suffisamment pour être transformé. Mais laissons-nous transformer par Dieu et par son Saint-Esprit. Et pendant que j'étais cette semaine au Champ Libre, j'étais au dernier étage. Et c'est impressionnant parce qu'on voit les gens tout en bas, tout petits, et juste en face du Champ Libre, il y a cette grande tour d'une vingtaine d'étages, c'est la tour de la Sécurité sociale pour ceux qui connaissent, et j'observais une feuille morte tout en bas. Et à un moment, il y a une rafale de vent et cette feuille morte, qui était suffisamment légère, eh bien, en un instant, elle rejoint tout en haut le sommet de cette tour de 20 étages. C'est impressionnant. Et elle était ballottée de droite et de gauche. Le vent s'arrête et puis elle retombe vers les profondeurs. Et j'ai observé ce jeu entre cette feuille et le vent pendant plusieurs minutes. Et à ce moment-là, je me suis demandé, est-ce que nous acceptons d'être cette feuille morte qui nous laissons entraîner, embarquer par le vent du Saint-Esprit où il veut nous conduire? Et encore une fois, si cette feuille était restée verte, le vent n'aurait pas pu l'emmener aussi haut. Mais cette feuille était suffisamment légère pour que le vent puisse l'emmener à plusieurs mètres en hauteur. Est-ce qu'on est mort à nous-mêmes pour pouvoir être utilisé par le Saint-Esprit? C'est la question. Ce matin, on a vécu un moment fort dans la louange, n'est-ce pas? Il y avait ce chant qui dit « Jésus, sois le centre, sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles. » Est-ce qu'on accepte que le vent du Saint-Esprit nous conduise à droite ou à gauche selon son désir et non plus selon le nôtre? J'ai prié ce matin pour que nous puissions être tout simplement mort à nous-mêmes, mort à nos projets, à nos ambitions. Parce que Dieu dit dans sa parole, si quelqu'un veut me suivre, eh bien, qu'il abandonne sa vie. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui voudra l'abandonner, celui qui voudra perdre sa vie, la retrouvera dans l'autre pour l'éternité. Et je vais prier ce matin pour que nous puissions et nous abandonner complètement au Seigneur afin faire l'œuvre de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole et merci pour ce passage des disciples sur le chemin d'Emmaüs. Parce que tu t'es révélé à eux et tu leur as ouvert les yeux et ils ont pu te suivre. Ma prière, c'est que nous puissions, nous, chacun, toutes les personnes réunies en ce lieu ce matin, que nous puissions vraiment mourir à nous-mêmes pour que tu puisses habiter pleinement en nous. Seigneur, aide-nous à laisser nos vies qui finalement n'ont plus de valeur, mais qui ont simplement cette valeur, qui ont une valeur parce que tu nous as rachetés, parce que tu veux habiter dans notre cœur. Elle est là, la vraie valeur. Alors aide-nous, Seigneur, ce matin à nous abandonner complètement à toi pour faire ton œuvre et pour être à l'écoute de ton Saint-Esprit et t'obéir là où tu voudras nous conduire. Je te demande de bénir chacun ce matin ici présent, Seigneur, que tu puisses établir ta présence profondément dans les cœurs et que tout ce que l'on sait de toi ne reste pas dans notre esprit, dans notre cerveau, mais puisse descendre jusqu'aux profondeurs de notre cœur. Dans ton nom, Jésus. Amen.